Donc là maintenant, effectivement, alors il y a 25 anecdotes dans ce livre et on ressort toujours l'histoire de la toilette. Hein. C'est vraiment incroyable, c'est inouï.
Non mais ça c'est bien parce que c'est vraiment les coulisses du concours et c'est ce qui est intéressant dans le livre.
Et alors, pour continuer sur Wogan, après l'émission, donc le show, je lui dis, on va faire une photo, on sait jamais, quelquefois que je ne reviendrai pas l'année prochaine. Et ils m'ont fait la photo et puis il me dit, did you enjoy it? Je dis, ouais, ça va. Alors il me dit, on se revoit l'année prochaine. L'année suivante, je sais plus où c'était, je vois passer Wogan, je cours comme un gamin après et je lui dis, Mr. Wogan, you remember me? I'm the Belgium commentator. Il se retourne vers moi et il me dit, don't worry, nobody is perfect. Je dis, je suis resté sur, comme deux ronflants là, en train de regarder ce type. Et puis depuis là, on est devenus copains. Et puis voilà quoi, c'est un grand plaisir de rencontrer ce type-là. Et il y a plein de gens, plein de commentateurs. Le commentateur allemand que j'ai revu encore l'autre jour, qui n'était pas là l'année passée. Je lui dis, mais comment ça se fait que tu n'étais pas là l'année passée? Je me suis fait opérer de la hanche. J'ai dit, ça c'est les vieux ça mon ami. Hein. Et puis il y a le commentateur... irlandais que j'aime beaucoup aussi, qui est absolument irrésistible et drôle comme tout. Et c'est une famille quoi, plus les jeunes. Mais moi je suis un peu dans les dinosaures, hein, mon cher Eddy. Voilà, ça c'est l'Eurovision. Que dire encore sur l'Eurovision? Après on passera à Johnny Hallyday, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai eu d'autres activités, mais c'est vraiment très agréable. En plus c'est agréable parce qu'on découvre plein de pays. Tu as parlé de Kiev. Il y a eu Moscou, il y a eu enfin tout, la Turquie, enfin il y a eu Jérusalem, il y a eu voilà, et chaque fois c'est différent, et chaque fois c'est vraiment l'organisation est différente. Bon, quand on commence à connaître, on sait par exemple que à Oslo l'organisation allait être tip top, ce qu'elle a été, et que probablement l'année prochaine en Allemagne ça sera encore plus tip top. Mais ça sera intéressant, l'Allemagne, ça sera intéressant de voir un peu ce qu'ils présentent quoi.
Mais nous, on a un avantage par rapport à vous quand on y est, du point de vue touristique, c'est que le dernier jour, le samedi, on n'a rien à faire puisque tout ce qui peut intéresser le journal commence à 20h30, 21h. Donc on a toute la journée du samedi pour visiter, pour faire du tourisme. Ouais. Toi, tu as l'occasion de faire du tourisme quand
Bien sûr, mais pas beaucoup. Moins que dans le temps, parce que dans le temps, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait qu'une finale le samedi. Donc j'arrivais, j'étais seul, hein, il n'y avait pas encore l'infâme Jean-Louis Lahaye, mais... Bon, j'arrivais et puis on arrivait le lundi avec Pierre Meillet, le producteur, et on avait le temps de faire un peu de tourisme et tout ça. Et je veux dire que maintenant, on a de moins en moins de temps d'en faire. En même temps, c'est des pays qu'on connaît, hein, donc Oslo, je connaissais tout ça. Donc voilà, mais on n'est pas là pour faire du tourisme, hein, on est là pour faire du
show. Non, enfin, c'est agréable quand on y est. Il y a un truc qui m'avait étonné terriblement en lisant ton livre, et puis je me suis dit que tu n'avais pas tort. C'est que tu sembles dire beaucoup de bien des artistes qui viennent de l'Est et dont nous, on avait quand même... Enfin, je veux dire, dans l'image caricaturale, on a l'impression qu'ils sont venus un peu polluer l'Eurovision, un peu être de trop, abîmer un peu l'image familiale que l'Eurovision avait dans le temps.
Au début, on se foutait un peu de leur gueule. Hein. En 94, ils sont arrivés en même temps que moi. Enfin, on est pas arrivés avec le même avion, mais... et on se foutait un peu de leur gueule en disant ouais, c'est que ces bouseux qui débarquent des pays de l'Est. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'ils arrivaient avec leurs grandes stars, un peu comme si nous on venait à l'Eurovision avec Morane, des gens comme ça, ou Arnaud. Et du coup, ça a vraiment relevé mis la barre plus haut quoi. On est passé de la deuxième division, on était dans la deuxième division en première division. Et donc du coup les autres ont dû s'aligner, je veux dire les autres pays, et trouver des interprètes, des chansons très très bien, des shows, des choses comme ça quoi. Donc je pense que c'est les pays de l'Est en définitive qui ont reboosté l'Eurovision.
Oui, c'était un truc qui m'avait étonné. Et c'est vrai que l'année dernière, la France a amené Patricia Cass, mais ça reste quand même une démarche tout à fait exceptionnelle.
Oui, ça c'était pour faire plaisir au président Poutine, qui est d'ailleurs oui. Même venu la voir et lui faire le baise-main.
Et te saluer par la même occasion.
Devant les journalistes et surtout les organisateurs qui étaient sidérés, qui n'osaient pas bouger d'un poil quand Poutine arrive, je peux te dire que tout le monde est dans ses petits souliers, hein, parce que la claque peut vite partir. Mais ça, c'était effectivement, moi je l'avais rencontrée un petit peu avant, Patricia Kass, elle m'avait dit, effectivement, je fais l'Eurovision parce que c'est la Russie et parce que j'ai une carrière en Russie. Et puis en Europe aussi. Donc, je pense que c'était une bonne chose, quoi. Mais c'était, il y a 20 ans, c'était impensable.
Et tu racontes dans ton livre que dans le lot des artistes, elle se démarque même pendant la semaine Eurovision. Il faut savoir, oui, ça c'est quelque chose que les gens savent pas. Enfin, oui.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des soirées et c'est toujours un peu, bon, c'est un peu gay, hein, comme soirée, généralement, malheureusement. Enfin, malheureusement. Bon, je dis ça comme ça, mais. Sauf à Moscou. Où là, à Moscou, comme ils sont pas très gays, si j'ose dire, G-A-Y, ils ont, le maire de Moscou avait dit, bon, ben, il faut pas que ces soirées, tournent à des trucs que nous, on ne veut pas. Et donc, ils faisaient venir des essaims de jeunes filles en mini-jupe et en haut talon. J'ai un souvenir ému de cette époque où on était, Jean-Louis Lahaye et moi, à la porte des soirées. On regardait d'entrée ces filles qui étaient... Mais des bombes, quoi. Des bombes, vraiment. C'était vraiment bien pour ça. Moscou, vraiment, j'y retournerai. C'est inouï. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des soirées où là, les artistes arrivent, sont photographiés, sont interviewés. Etc. quoi. Bon, alors, ouais, quand on est Patricia Kass, c'est normal, hein, on est une star. Mais alors, bien souvent, ce sont des gens qui ont été pris comme ça, et qui, tout à coup, pendant une semaine, sont les rois d'une semaine, quoi. Et après, la chute est terrible, parce que moi, j'ai vu des artistes donnant des interviews, se comportant vraiment comme des superstars. Ils arrivent avant-dernier, et le dimanche, ils étaient tout seuls à l'aéroport avec leur petite valise et je veux dire même à la limite la petite amie s'était déjà cassée quoi avant et c'est terrible c'est vraiment cruel comme truc quoi parce qu'on est dans une ambiance de stress et qui est agréable qui est marrante mais c'est du show quoi c'est show business c'est pas terrible.
En même temps moi j'ai toujours eu le sentiment puisque je chante aussi que non. Je fais des spectacles.
Alors, vas chanter un morceau chacun. Tout à l'heure. Non,
personne va chanter un truc. Moi, j'ai toujours dit, le chanteur de Clouseau, quand il a fait l'Eurovision, il disait que, pour lui, le sentiment ultime qu'un individu pouvait, en plus c'est d'actualité, pouvait vivre dans sa vie, c'était le sentiment d'un type qui, dans une Coupe du Monde de football, marque le goal de la victoire devant 100 000 spectateurs. Il disait, ce qui se passe dans la tête, à ce moment-là, ça doit être extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé, l'Eurovision, pour moi, c'est le rêve ultime, parce que tu travailles pendant 6 mois sur une chanson qui dure moins de 3 minutes. C'est vrai que pendant une semaine, tu es considéré comme une star, puis tu représentes ton pays, et puis le jour arrive où tu es dans ton hôtel en train de te raser pour aller à l'Eurovision, puis tu es dans le hall des artistes, puis on vient te chercher, c'est ce moment-là où tu traverses... aller vers ce micro qui est là au fond, ça doit être quelque chose d'extraordinaire.
Oh, je crois qu'ils sont généralement morts de trouille et ils ont envie de foutre le camp en courant. Hein, mais moi, j'ai vu des chanteurs belges qui n'avaient plus de voix, quoi, hein, qui partaient, qui étaient paralysés par le trac. Parce qu'il y a déjà ce show immense, il y a quand même 200 millions de téléspectateurs, c'est plus que le Super Bowl. Et puis il y a la pression du pays, quoi. C'est un peu la Coupe du Monde de foot, hein, grosso modo. Et donc c'est une quand on n'a pas l'habitude de la pression comme ça, il y a des gens qui meurent. Hein. C'est pour ça que dans les commentaires on fait gaffe, on se fout pas trop de la gueule des gens parce que c'est dit un peu, mais pas trop. C'est Jean-Louis qui fout de la gueule, moi pas. Parce que non, j'ai beaucoup de respect. Je trouve que il faut quand même un sacré courage pour monter sur scène et pour aller chanter comme ça devant autant de millions de téléspectateurs, représenter un pays. C'est un stress inouï, quoi. Donc il faut respecter un peu ces gens-là. Mais c'est vrai qu'on se moque un peu. Mais bon, si on se moquait pas, on ne nous écouterait pas. Hein? Bon, voilà. Si on parlait de Johnny Hallyday.
Parler de Johnny, allez, on va parler
Alors,
de Johnny.
Johnny Hallyday est un ami de ne veux pas dire intime, mais un... Non, tu le connais bien, tu l'as interviewé combien de fois?
27, j'ai fait le compte.
27 fois. La première, c'était en quelle année?
La première, c'est en 73.
En 73.
Là, c'était un truc assez spécial, je raconte pas les détails.
Attends, ne raconte pas tout dans le livre, parce que sinon les gens ne vont pas l'acheter.
Mais justement, donc j'étais allé voir à Liège, apparemment... Oui, il a baissé son pantalon. Apparemment, il y avait des problèmes avec la police. Chaque fois qu'il venait à Liège, comme c'était une très belle salle avec des fauteuils en velours, et que les directeurs de cette salle tenaient à leur fauteuil, ils faisaient toujours venir une horde de policiers. Et puis les fans étaient en ébullition, les policiers étaient en ébullition aussi. Tout ça. Et à un moment donné, Johnny a baissé son pantalon. Il y a la moitié de la salle qui a vu, moi, l'autre moitié non. Moi, je l'ai pas vu. J'étais dans la mauvaise moitié, mais toujours est-il qu'il a été le policier a fait un rapport et à ce moment-là il y a eu une poursuite judiciaire et comme il était en France, on a fait un mandat d'amener. C'était quelque chose qui était devenu très sérieux et si ça s'était prolongé, il n'aurait plus eu la possibilité de venir chanter en Belgique. Et en 1973, j'étais jeune journaliste. Ça, je le dis dans le livre, je ne connais plus par cœur, mais je crois que c'était mon 24e jour de service pour la dernière heure. Et je faisais les faits divers, je vais donc au palais de justice de Liège, et un gardien de prison me dit « Sais-tu qui est chez le juge d'instruction là-bas ? Johnny Hallyday. » Il avait simplement téléphoné au juge, enfin fait téléphoner son avocat, pour demander à être entendu, pour que cette histoire s'arrange. Et en fait, il a expliqué au juge qu'il portait pas de slip sous son pantalon, que c'était un bouton qui avait pété, que le pantalon est descendu. Et alors le policier l'accusait aussi de l'avoir frappé. Il dit « Je l'ai pas frappé, mais quand des choses comme ça vous arrivent, vous foncez en coulisses le plus rapidement possible et j'ai probablement bousculé. Je m'en suis même pas rendu compte et ça s'est arrangé comme ça. » Il avait baissé son pantalon. Oui. Tout le monde a vu tout ce qu'il y avait à voir. Enfin, la moitié de la salle a vu ce qu'il y avait à voir. Et c'est dans ces circonstances-là que je l'ai rencontré pour la première fois.
Et donc, tu as rencontré Johnny plusieurs fois, tu l'as dit. Tu as rencontré aussi son père, à l'époque.
Et son père,
qui,
oui.
Qui habitait où ça? Ici, en Belgique?
Mais je l'ai trouvé à l'Armée du Salut, à Liège. C'est-à-dire que j'avais voulu écrire un livre sur Johnny, déjà, en 1980, parce qu'à l'époque, il n'existait rien d'intéressant. Il n'y avait aucun livre avec une recherche véritable sur Johnny. Et j'avais commencé à faire ce travail. J'étais allé à Paris, j'avais rencontré sa voisine de palier. Ça, c'était une femme extraordinaire. Quand Johnny a toujours pratiquement habité dans le même immeuble, hein, rue de la Tour des Dames, au numéro 13, il y avait deux appartements par étage. Et depuis sa naissance, il a toujours eu la même voisine, qui était une couturière, qui est la femme qui a fait ses premières chemises, les chemises qui sont sur ses premiers disques, c'est elle qui les a faites. La chemise de ses premiers spectacles, c'était elle aussi. Elle est décédée maintenant, cette dame, mais enfin, j'avais eu l'occasion de la rencontrer assez longuement. J'avais rencontré le parrain de Johnny Hallyday, c'est aussi quelqu'un d'inattendu. C'est un monsieur qui était responsable d'émissions culturelles à la radio française, à la RTF. Et l'ORTF à l'époque, et plein de gens comme ça dont personne n'avait jamais parlé. Et puis quelqu'un m'a dit « Mais sais-tu que le père de Johnny est à l'Armée du Salut à Liège ?» Je suis allé à l'Armée du Salut, il est venu, on est allé prendre un verre, ce qui ne le dérangeait pas. Et puis je l'ai revu quand même assez souvent, j'ai fait de très 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 longues interviews avec ce monsieur, qui est un monsieur qui a une vie absolument passionnante, parce que bon, tout le monde sait que le père de Johnny était un vagabond au moment où Johnny a éclos, c'est-à-dire en 1960, il n'était pas encore un vagabond à la naissance de Johnny, mais c'est arrivé très vite, c'est arrivé tout de suite après la guerre. Avant-guerre, ça a été un artiste... manifestement remarquable. Tous les témoins en attestent, et il y en a quand même pas mal. Il a commencé une carrière de danseur avec la femme qu'il a épousée, donc il s'est marié trois fois, la mère de Johnny était en la troisième. Donc avec sa première épouse, il a été danseur. Puis quand ils se sont séparés, venu mime, de mime il est passé à comédien, il a fait un peu de cinéma dans un film complètement fou, un des premiers Fantomas de l'écran qui avait été réalisé par un type qui s'appelait Ernst Moorman, qui était un écrivain surréaliste, qui est un personnage culte dans le monde du surréaliste. Notre Léon Smet, le père de Johnny, a aussi ouvert un théâtre ici à Bruxelles qui s'appelait Le Trou Vert, le trou comme un trou. Et dans ce théâtre, il a monté des pièces de théâtre surréalistes aussi, avec pour décor, notamment la première fois, une toile de Magritte. Donc je pense, il y a beaucoup de chances que Magritte et Léon Smet se fréquentaient, puisque tout le milieu surréaliste bruxellois était rassemblé autour de ce petit théâtre. Donc c'est un personnage. Et puis quand la guerre est arrivée, il a été clown aussi. Et quand la guerre est arrivée, il est parti à Paris où se trouvaient sa sœur et son beau-frère. Et comme il n'avait plus d'emploi, mais il comptait beaucoup sur eux pour essayer de l'aiguiller. Et alors là, il a travaillé dans un cabaret où il était avec Mouloudji, avec Serge Reggiani. Et j'ai encore eu l'occasion de parler du père de Johnny avec Reggiani, qui en disait énormément de bien, et qui d'ailleurs m'a dit qu'il en avait parlé avec Johnny, et lui avait dit, vous avez dit pique-pendre de votre père, mais moi je peux vous dire que c'était un artiste de très très grand talent. Et puis le problème, c'est que ce cabaret était tenu par une femme qui s'appelait Agnès Capri, et Agnès Capri était juive, et elle a compris assez vite qu'elle n'avait pas intérêt à rester trop longtemps à Paris. Elle est partie en Algérie, et de nouveau notre Léon Smet s'est trouvé sans travail, et de nouveau son beau-frère qui avait des origines allemandes, et qui avait été réquisitionné par les Allemands, l'a aidé et l'a placé dans une télévision en 1943. Alors quand on sait que l'INR, donc l'ancêtre de la RTBF, a commencé l'expérience de la télévision en Belgique en 1953, on est donc 10 ans avant les débuts de la télévision en Belgique. Donc il faut se rendre compte à quel point la télévision en 43 c'était expérimental. Et c'est après la guerre, après la libération de Paris, qu'il s'est dit que, enfin je pense en tout cas que c'est ce qui s'est passé, il a dû penser qu'il risquait d'être arrêté, qu'il risquait d'avoir des ennuis, et il est parti en Espagne, et c'est en Espagne qu'il a commencé une vie de vagabond, de voleur, à l'occasion. C'était jamais des choses extrêmement...
Attends, quand il part en Espagne comme ça, ça sent quand même un peu...
Ça sent quand même un peu, oui.
Ça sent le collabo,
la seule chose...
Ça, il faut savoir... Quand on part en Espagne après la guerre...
Sans aucun doute. Il fait aucun doute que c'est pour ça qu'il est parti. La seule chose, il y a deux choses à dire là-dessus, c'est que son beau-frère, qui était donc un monsieur qui avait des origines allemandes, mais qui est éthiopienne, donc père allemand, mère éthiopienne, a travaillé, lui, pour une radio... allemande de Paris en langue française, et il a été condamné à 5 ans de prison, et là il a perdu tous ses droits comme toujours, et Léon Smet a été témoin de ça. Donc il s'est dit, moi j'ai travaillé pour la télévision, donc je risque d'être arrêté aussi. La deuxième chose à dire, c'est que aucun des collaborateurs de cette télévision qui s'appelait la Fernsehsender Paris, aucun n'a été poursuivi, n'a eu des ennuis avec la justice, et il y a beaucoup de chances qu'il n'en aurait pas eu aussi, parce que ils ont considéré que c'était de la futilité. Et surtout, c'est que le directeur de cette chaîne de télévision, qui était un Allemand, qui était un type du service de propagande de l'armée, était un type qui n'était manifestement pas un nazi dans l'âme, et qu'il essayait au contraire de recruter des gens de gauche, des juifs, il y a même des juifs qui ont travaillé pour cette télévision pendant la guerre, et des gens qui risquaient d'être menacés, des gens qui étaient menacés de STO, de service de travail obligatoire, Jacques Dufilho notamment, et on considérait que c'était plutôt un refuge pour les gens qui voulait échapper aux Allemands, et c'est ce qui s'est passé. Mais enfin, bon, le fait est que s'il est parti en Espagne, c'est sans aucun doute parce qu'il pensait qu'il avait des ennuis, et qu'en Espagne, il s'est trouvé sans travail, il s'est trouvé sans retenue, il s'est trouvé sans possibilité de faire l'artiste, et il a été mis à la porte de ce pays parce qu'il avait été accusé de vol, qu'il avait volé, et il n'a jamais arrêté par la suite, quoi. C'était jamais des choses très très graves. Sauf peut-être en France, mais je n'ai pas de détails. Il a été arrêté pour une histoire de vol d'œuvres d'art. Et là, il a été mis à la porte de la France, interdit de séjour. Et c'est une interdiction de séjour qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. En Belgique,
Il faut aussi rappeler qu'il aimait bien picoler, comme son fils.
Oui, il aimait bien picoler. Ça commençait déjà avant la guerre. Ben, c'était une vie de nuit, hein. C'était les vies de cabaret. Donc, il vivait pendant la nuit. Il picolait pas mal. Il supportait très, très, très bien l'alcool aussi. Et c'est vrai, moi, je me souviens d'une anecdote que je trouvais charmante. C'est que, à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans un home pour personnes âgées, ici à Saint-Gilles. Et il lui est arrivé 8 fois d'être arrêté dans le Delhaize voisin parce qu'il avait volé des bouteilles de vin. Et le juge lui a dit, mais enfin, pourquoi vous vous obstinez à voler des bouteilles de vin alors que vous faites chaque fois arrêter? Il a dit, parce que dans le home, quand on nous sert du vin, c'est toujours dans des tout petits verres. Il préfère avoir la bouteille, oui.
Et pour terminer, parce que si on te laisse parler, on en a jusqu'à minuit, il faut quand même qu'on aille manger. Chanter. C'est lui qui chante, c'est pas moi. Hein. Non. Moi, je fais jamais ça parce que bon. Mais les similitudes entre le père et le fils. Est-ce que tu crois que si on connaît bien l'histoire du père en lisant ton livre, on peut mieux comprendre, sinon la carrière, mais le personnage de Johnny?
Ce qui est fascinant, c'est que c'est les deux mêmes. C'est extraordinaire. Ils se sont pas connus. Il faut savoir que le père de Johnny s'est tiré en Espagne, allez, au pire en début 45, dont Johnny est né en juin 43, donc à ce moment-là, il avait un an et demi. Et après, ils ne se sont quasiment plus jamais vus jusqu'en 1964, quand Johnny faisait son service militaire en Allemagne et qu'une équipe de France Dimanche a emmené le père en Allemagne pour une rencontre qui a dû durer une demi-heure. Mais à part cette rencontre, ils se sont jamais vus. Et c'était les deux mêmes. C'était extraordinaire. La même fascination pour la nuit. La même fascination pour la solitude. Le même goût pour l'alcool, évidemment. La même attirance pour les milieux artistiques.
Le même charisme.
Le même charisme, sans aucun doute. Mais les rapports, le même physique. Quand on voit, il y a des tas de photos de Léon Smet dans le livre. Il se ressemble comme un père et son fils, incontestablement. Et je pense, oui, qu'on apprend beaucoup sur Johnny quand on sait qui est son père, sans aucun doute.
Merci Eddy Pribilski.
Mais c'était un plaisir.
Merci mesdames et messieurs. Bonne soirée. Nous allons maintenant écouter Eddy Pribilski qui va nous chanter quelques chansons de Jacques Brel en russe.
De Johnny Hallyday en japonais.
Exactement. Non, et ça, il m'a fait le coup une fois dans un parc. Si ma mémoire est bonne, c'était à Riga.
À Dublin, oui.
Oui, on était à Dublin. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien nous chanter Jacques Brel en japonais ? Johnny. Il monte sur un banc et il commence à chanter...
Johnny.
Johnny. Ne me quitte pas ou un truc comme ça ? C'était
non, Johnny, c'était que je t'aime.
Que je t'aime. Que je t'aime.
C'est vrai.
Que je t'aime. Je me souviens quand même. Et les gens passaient et se disaient, mais c'est qui ce dingue qui chante un truc qu'on ne connaît pas dans une langue bizarre. C'était Eddy Pribilski. N'oubliez pas d'acheter son excellent bouquin, Hallyday, les derniers secrets.
Alors si vous en conseillez, hein, moi c'est celui de Jean-Pierre.
Il y en a
L'Eurovision, les meilleures années.
Il y en a plus. Voilà.